Parole d'assaut, une émission de Didier Blonz, prise de son Gisèle Billon. Aujourd'hui, nous recevons Entraide protestante avec pour invité Alban Bervas. Alban Bervas, bonjour. Nous avons déjà reçu pour cette entraide protestante. J'aimerais que vous nous rappeliez un peu, en gros, dans les grands traits, à quoi correspond cette association et d'abord, où est-elle située ?
Alors, elle est située 47 rue Anatole France, en face de François Ier. Elle existe depuis 1907, donc c'est une antiquité. Elle fait partie... de la vie du Havre depuis donc plus d'un siècle. Au départ, elle s'appelait la Société protestante de bienfaisance havraise. Et Société de bienfaisance, ça n'a plus cours. Donc, elle s'appelle Entraide protestante depuis au moins 20 ans. Au départ, elle devait venir au secours des pauvres de la paroisse. Puis progressivement, il y a eu soit moins de pauvres, soit plus de besoins ailleurs. Et par le biais de la CIMAD d'origine protestante, nous en sommes venus à nous intéresser aux migrants. Et je dois dire que les migrants et ou les SDF ont 98-99% de nos bénéficiaires, avec de petits problèmes de régularisation sur le territoire, de papiers, de caractère plus ou moins licite de la présence de nos bénéficiaires. Mais ça, c'est de la politique et ça ne me regarde pas.
J'ai cru comprendre qu'entraide protestante, on n'avait pas besoin d'être protestant pour bénéficier de l'entraide.
Très bonne question, Didier. Effectivement, on le sait très peu, mais c'est une association laïque qui donc a été fondée en 1907, donc après la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est une association qui ne reçoit pas de subsides en tant que telle de l'Église réformée unie de France. Alors évidemment, nous faisons partie de la Fédération des entraides protestantes, qui a un vieux fonds protestant dans le siège et rue de Clichy à Paris. Mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait 20% des bénévoles qui soient protestants dans l'association. On ne demande jamais sa carte du parti et viennent ceux qui veulent rendre service et servir les plus défavorisés de notre société.
Alors non seulement on n'a pas besoin d'être croyant pour avoir les aides, mais même pour donner un coup de main en tant que bénévole, c'est laïque à 100%.
Ah, complètement.
Qu'est-ce que les gens viennent chercher dans votre association ?
Et je vous aurais dit il y a un an, d'ailleurs je vous l'ai dit il y a un an, qu'ils venaient chercher du réconfort, des cours de conversation française, pas des cours de français mais des cours de conversation. Monsieur l'épicier, je voudrais 1 kilo de pommes de terre s'il vous plaît, parce que c'est un volontaire européen d'origine syrienne qui nous l'avait fait remarquer quand on arrive en France et qu'on ne parle pas français. C'est le genre de choses qui n'est pas évidente à faire. Donc on faisait de l'aide morale, de l'aide juridique, on avait fait du vestiaire, on faisait des cours de conversation. L'an dernier, on avait mis en place des ateliers de lecture à la Galerne. On avait mis en place des journées ludiques à la forêt de Monjon. On avait essayé d'élargir énormément notre activité. On a même commencé à faire des cours de cuisine. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu une petite épidémie à partir de mars 2020. Et donc, on a été obligé de se focaliser complètement sur la distribution alimentaire et seulement sur elle. Ça me navre, mais bon, nécessité fait loi. Et donc, depuis le 15 mars 2020, on ne fait que de la distribution alimentaire. On a abandonné tout le reste parce que, d'une part, on a demandé à nos bénévoles de plus de 65-70 ans, et on en a quand même beaucoup, de limiter leur participation. Ne serait-ce que parce qu'on a affaire à un public très spécifique. Les gens qui sont logés dans des structures d'accueil comme l'Armée du Salut ou autres sont dans des conditions optimales pour attraper le Covid-19. Et il y a des chiffres qui ne trompent pas. À Paris, plus de la moitié des gens qui sont logés par des associations ont le Covid ou l'ont eu. Nous, on doit être au-delà maintenant parce qu'il y a eu une flambée de l'épidémie au Havre. Et donc, on ne peut pas prendre de risques inconsidérés en négligeant les règles de sûreté, de confinement, etc. Donc, on a réorganisé, depuis le 15 mai, on a réorganisé 4 fois notre mode de distribution. 4 fois. Et là, actuellement, on est sur un mode de distribution qui satisfait tout le monde. On arrive à distribuer de 320 à 360 colis dans la journée. avec le minimum de risques possible. Et l'assentiment de la sous-préfecture, l'assentiment du CCAS du Havre, parce que avant de procéder de cette sorte, j'ai demandé leur accord par écrit, de façon à être couvert légalement.
Alors, une association comme Entraide Protestante, il faut effectivement un bureau, comme dans toutes les associations, il faut des bénévoles, et pour distribuer des colis, il y a également des gentils donateurs. J'aimerais que vous puissiez, qu'on fasse un petit clin d'œil, un petit coucou à tous les gens qui vous apportent ou qui vous donnent de la nourriture.
Désolé, je vais vous décevoir. On refuse les dons en nature de particuliers parce que on n'a pas le nombre de volontaires, on n'a pas l'organisation, on n'a pas la capacité de stockage pour accepter des dons de, je sais pas moi, un sac de pommes de terre, 10 kilos de pâtes, du beurre, de l'huile, tout ce que vous voudrez. Matériellement, c'est pas possible.
Je pensais plutôt aux hypermarchés généralement.
Ah, avec les hypermarchés, on avait ce qu'on appelle la ramasse jusqu'au 15 mars. Mais on a eu un problème de réduction des bénévoles et un problème de traitement de la ramasse parce que, bon, bien que les choses se soient considérablement améliorées, on travaillait avec Auchan. Et au début, Auchan nous balançait tous les fruits pourris qu'il pouvait avoir. Donc nous avons protesté. Après, ça s'est amélioré. Mais face au Covid, on n'a pas pu maintenir et la distribution et le traitement de la ramasse. Au départ, pour une raison toute bête, c'est qu'on distribuait par sac. On faisait 400 sacs, on était livré le lundi, alors que d'habitude c'est le jeudi. On faisait commencer les sacs le lundi, on les terminait le mardi. On entreposait nos 400 sacs dans les salles et on organisait le jeudi, le vendredi et le samedi une distribution soit directement dans les centres d'hébergement, soit dans des lieux précis. Il y avait 7 lieux dans le Havre où on convoquait nos bénéficiaires, soit alors le samedi pour les gens qu'on n'avait pas pu joindre ou qui ne pouvaient pas se déplacer. Enfin bref, on avait 30 à 35 colis à distribuer le samedi matin. Mais on ne pouvait pas mettre dans les sacs des produits périssables ou ce genre de choses. Donc c'est la deuxième raison qui a fait qu'on a dû abandonner la ramasse. Et je vous avoue qu'actuellement, je ne sais absolument pas si on va reprendre la ramasse après que l'épidémie soit passée ou ce genre de choses. Parce que mine de rien, ça demande des équipes de bénévoles, qui sachent traiter la ramasse, qui sachent la reconditionner, et c'est pas évident. Ça a l'air simple comme ça, mais quand vous avez à traiter, je sais pas moi, 400 kilos de fruits en 3 heures, ben il faut des gens qui sachent quoi. C'est des genres de choses auxquelles on pense pas quand on n'y est pas confronté.
Quelle est la proportion de migrants parmi les gens qui ont accès à l'entraide protestante ?
90%. Là maintenant, ça s'est un peu réduit par rapport à l'avant-Covid, parce qu'on prend en charge des SDF, des sans-domicile fixe, des gens qui sont dans la mouise, quoi, dans la misère. Mais bon, il faut savoir que nous, à la différence des Restos du Cœur ou autres, notre reste à vivre, c'est-à-dire dans le jargon associatif, ce qui reste aux gens pour vivre après qu'ils ont payé l'avocat, les frais fixes, enfin X, Y, Z. Donc le reste à vivre est de 100 euros par mois et par personne. Donc vous avez deux gosses, vous êtes à la rue, il ne faut pas que vous touchiez que vous disposiez de plus de 300 euros par mois. Donc nous, on a des critères d'inscription qui sont drastiques. Là, il y a des étudiants qui frappent à la porte actuellement parce que bon, ils ont de gros problèmes puisqu'ils n'ont pas de petit boulot et ce genre de choses. Et ben, on ne peut pas les prendre parce qu'ils ont, je sais pas moi, l'allocation minimale de solidarité et choses comme ça. Et ils sont à 400, 500 euros et on ne peut pas les prendre, quoi. Et ça me navre, mais malgré ce couperet, on a sans cesse de nouveaux inscrits, de nouveaux bénéficiaires.
Et cette Covid est venue se rajouter à tous les problèmes que ont les gens en difficulté.
Ah oui, alors ça, vous faites bien de poser la question, enfin de le faire remarquer, parce que bon, nos migrants, ils faisaient du travail au black. Bon, logique. Moi, je serais dans la situation, je ferais ça. J'ai jamais compris, je ne comprends pas qu'on interdise à ces gens de travailler tant qu'ils n'ont pas une carte de séjour en bonne et due forme. Je trouve ça d'une débilité grave. Bon.
Alors, oui, il faut bien qu'ils vivent, donc de toute façon, c'est ça, ou le vol, ou ils n'ont pas le choix.
Et on me dit, ouais, c'est une menace sur le travail, mais ils feraient les travaux, ils font les travaux que les autres ne veulent pas faire.
De toute façon.
Donc, Et là, actuellement, c'est dramatique parce qu'ils n'ont plus un rond. Et ils ont d'autant moins d'argent que les aides de l'État sont mal distribuées. L'ADA, par exemple, l'allocation aux demandeurs d'asile, elle devrait se faire par une espèce de carte magnétique. Dans un premier temps, elle n'a pas été distribuée. Bon. Et dans un deuxième temps, il s'est avéré qu'il n'y avait pas suffisamment de récepteurs pour la valider, c'est la somme qu'ils reçoivent, qui doit être de 110 ou 120 euros par mois, enfin quelque chose. Bon. Et ce qui fait que, par exemple, les centres d'hébergement ne peuvent plus, depuis le 15 mars, ne peuvent plus pratiquement se faire payer l'hébergement, de même que nous, on a un mal fou à faire payer la contribution au colis que l'on demande. Alors c'est, selon les revenus, de 50 centimes d'euros à 2 euros par colis. Mais on n'y arrive plus. On n'y arrive plus parce que les gens n'ont plus un sou. Et ça, c'est affreux. Le nombre de demandes que l'on a de les employer au noir, de leur faire faire des ménages ou des choses comme ça, c'est affreux. C'est affreux. Parce qu'on peut pas, quoi. Enfin bon, c'est comme ça.
Vous êtes sur votre radio préférée avec Didier Blonce.
Beaucoup de gens s'étonnent de voir des migrants. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Quelles sont les causes de migration? Elles sont énormes, entre les guerres, les famines, les problèmes politiques.
Bon, je ne répondrai pas à cet aspect de la question, parce que, je vous l'ai déjà dit, depuis que je travaille à l'entraide, j'ai renoncé à demander pourquoi ils étaient là. Parce que quand ils commencent à parler, on se dit « Attends, c'est du flan ce qu'ils me racontent, là, c'est pas possible. » Bon, je vous ai certainement raconté l'histoire de Mohamed qui venait du Sri Lanka. Et il était ingénieur, je ne sais pas en quoi, il parlait à peu près anglais. Il n'était pas dans le moule. Donc un jour, je lui demande « Mais pourquoi tu es là, toi, Mohamed ?» Et alors, il avait tout le temps un col roulé. Il baisse son col roulé, puis je vois une cicatrice sur la base du cou et une deuxième cicatrice au niveau de la glotte. Il dit, c'est quoi ça? Il me fait, ça, c'est la première tentative d'assassinat, et ça, c'est la deuxième tentative d'assassinat. C'est pourquoi on a tenté de t'assassiner? Parce que mon père a fondé un parti politique au Bangladesh. Alors, la deuxième, mon frère et moi, nous avons été attaqués. Et la deuxième tentative d'assassinat, ma femme m'a dit, on s'en va, on reste pas. Il dit, ouais, d'accord. Bon. Et de temps en temps, j'entends des trucs du style. Je dis à une jeune femme, il faisait froid aujourd'hui, hein. Elle me fait, ouais, c'était pratiquement comme dans les forêts espagnoles. Je fais, hein, forêt espagnole? Elle est du Bénin, en Afrique, noire. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu faisais dans les forêts espagnoles? Ah, j'y ai passé 6 mois. Alors, les mois d'hiver, c'était difficile. Mais elle n'en avait pas parlé jusque-là, elle n'avait rien dit. Donc je ne sais pas pourquoi ils sont là, je ne veux pas le savoir, ce n'est pas mon problème. Par contre, pourquoi ils sont au Havre? Il faut faire un peu de géographie simpliste. Il y a Calais à l'est du Havre, qui est verrouillé maintenant, on ne passe plus à Calais, c'est plus possible. Ouistreham a été vidé de ses camps de nomades et les règles s'appliquent de façon également très très rigoureuse. Il reste nous, ils pensent que c'est une porte ouverte, mais ça ne l'est pas. Donc une fois qu'ils ont, entre guillemets, échoué au Havre, ils y restent. Nous, on a des gens qui sont là depuis 5 ans, qu'on voit depuis 5 ans, et qui ne sont toujours pas régularisés, qui ont une famille, les gosses sont scolarisés. Hein, et une des angoisses que l'on a, et c'est le mot n'est pas trop fort, c'est que nous avons l'impression qu'il y a beaucoup plus de contrôle sur la validité des titres de séjour, ce qui conduirait à des vagues d'expulsion. Alors, nominalement, légalement, ce serait entre guillemets acceptable, mais ce sont des gens qui ont fait leur vie ici, qui ont leurs gamins à l'école, qui sont dans des réseaux d'aide, de travail, d'adaptation, d'intégration, etc., etc. Et il faut absolument se battre contre cette banalisation de l'expulsion. Je suis désolé, quand j'étais prof, il n'y a pas si longtemps que ça, j'expliquais à mes étudiants qu'il était traditionnel de dire que les États-Unis avaient réussi entre 1870 et 1940, on va dire, pendant 70 ans, parce qu'ils avaient reçu des vagues d'immigrants européens et autres qui pouvaient atteindre plusieurs millions par an. Et que ces gens, ces migrants étaient prêts à tout pour réussir, pour revenir sur la misère qu'ils avaient fui. Ils se sacrifiaient pour que leurs enfants à la deuxième génération deviennent parfaitement américains et puissent appliquer toutes les consignes du libéralisme économique américain. Libéralisme économique, libéralisme démocratique, libéralisme social, tout ce que vous voudrez. In God we trust et démerdez-vous chacun. Bon. Et en France, ça marche pas, ça. Il paraît que les migrants qui arrivent chez nous, c'est la lie de l'humanité et on n'en a pas besoin. On en a besoin. L'Allemagne de Madame Merkel l'a parfaitement compris. Ils ont un déficit de naissance que nous n'avons pas. Et il faut qu'ils intègrent ces migrants le plus rapidement possible. D'où les 800 heures d'allemand qu'ils reçoivent gratuitement à leur arrivée. D'où la formation professionnelle qu'ils reçoivent. Et le relais qu'ils vont avoir de la population allemande vieillissante. Si ça fonctionne en Allemagne et si c'est accepté en Allemagne, pourquoi c'est pas accepté en France? Là, il faudra qu'on m'explique. Parce que... comme disait Coluche, ces Africains qui viennent manger le pain de nos Portugais, faut pas pousser, quoi. Il y a des choses qu'on dit pas. Enfin bon.
À Lampedusa, au large de la Sicile, ils sont plus de 100 sur un tout petit bateau. Ils ont traversé la mer jusqu'à la première île, et plus d'une et plus d'un y a laissé sa peau. À Lampedusa, ils sont arrivés 10 000, ils ont bravé les vagues, ils ont bravé la peur. À Lampedusa, au large de la Sicile, prêts à mourir pour vivre un avenir meilleur. D'où viens-tu, mon frère?
D'où viens-tu, mon frère?
Je viens du désert.
Je viens du désert.
Et toi, mon ami?
Et toi, mon ami?
Je viens du Mali. J'ai quitté ma mère.
J'ai quitté ma mère.
J'ai quitté ma terre.
J'ai quitté ma terre.
Il n'y a plus d'eau.
Il n'y a plus d'eau.
Et plus de boulot.
Parmi ces migrants, ils viennent en majorité d'où? Est-ce que c'est vraiment très général? L'Afrique noire, on imagine un peu. Le Maghreb, peut-être aussi un peu. Encore, mais ouais. Beaucoup des Afghans, de l'Europe de l'Est.
On a beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains qui nous ont posé quelques problèmes il y a quelques mois. De violence. Moi d'abord et les autres après. On a encore beaucoup de pays, pas d'Europe de l'Est, mais...
Cette violence vient un peu du sauve-qui-peut, peut-être aussi.
Oui, c'est difficile à expliquer. Je pense que c'était très conjoncturel. On a eu affaire à un groupe de Nigérianes, de femmes nigérianes du Nigeria, qui fonctionnait comme un pack de rugby. Moi, j'ai fait beaucoup de rugby, et je vous jure qu'elles avaient une technique pour enfoncer les lignes et pénétrer en force dans la salle de distribution qui était impressionnante. Hein. J'ai dû faire appel à la police municipale pour calmer le jeu. Hein. Parce que je me suis vu un jour, j'ai dû rabattre en catastrophe un volet métallique, heureusement mu par l'électricité, pour faire cesser l'assaut. Et je me suis dit, je vais quand même pas cogner sur une femme pour pas pousser. Et quand la police municipale est venue, je me souviens que le brigadier m'a dit, mais... pourquoi ils sont aussi violentes? Pourquoi elles sont aussi violentes? Il dit, ah, ça, il faudra leur demander, parce que ça, je ne sais pas. Enfin bon, ça s'est calmé depuis. Alors, on a beaucoup d'Africains. On a encore quelques personnes d'origine maghrébine, mais moins. Et puis, elles s'intègrent très, très vite, très rapidement. Elles sont en général charmantes. On a beaucoup de populations du Monténégro, c'est-à-dire les pays des Balkans.
Ces gens qui viennent d'Afrique noire, ils viennent... pour quelles raisons? Les guerres, le réchauffement climatique, le...
tout. L'ensemble, vous mélangez au mille chèques et puis ils arrivent.
Vous me parliez des pays de l'Est également.
Oui, c'est pas vraiment les pays de l'Est, c'est les pays des Balkans et des Alpes dinariques. Donc la Croatie, la Slovénie fait partie de l'Europe, donc ils peuvent arriver quand ils veulent, mais ils sont là et ils ne repartent pas. Et on a beaucoup de Monténégrins, on a des gens qui devraient s'intégrer rapidement, mais qui actuellement n'y arrivent pas, ou n'y arrivent plus. Donc ça, c'est un problème. On a eu une petite
vague. Et pourquoi ?
Bah parce qu'actuellement, ils ne trouvent pas de travail. On n'a pratiquement pas d'Afghans, ça c'est sûr. On a une petite vague syrienne de chrétiens syriens, mais qui ont été pris en charge par le Secours catholique, le Secours populaire, qui ont été intégrés très vite. Alors eux, on leur a fait... ils ont eu leur visa, enfin pas leur visa, leur carte de séjour très rapidement. Alors que d'autres...
Alors ça aussi, c'est un des problèmes. Les musulmans contre les chrétiens contre les musulmans, à certains endroits, c'est très chaud. Il y a des pays comme la Birmanie, comme où les populations chrétiennes sont particulièrement mal logées. On parle souvent des musulmans en Birmanie qui sont malmenés, mais les chrétiens eux-mêmes, il y a beaucoup de pays. Le Pakistan, on va pas tous les citer, mais...
Mais bon, nous, on recrute. On accueille des gens, disons, du berceau méditerranéen, plus l'Afrique noire. Alors là, de plus en plus d'Africains, d'Afrique noire, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Ça, oui. Et... Bon, donc, à part quelques exceptions comme les chrétiens syriens, on n'a pas vraiment de population qui arrive de l'ex-croissant fertile. Tigre, Mésopotamie, enfin bon, ça, on n'a pas. Enfin, d'après ce qu'on voit. Parce qu'il est souvent difficile aussi de vérifier les renseignements qu'ils nous donnent. Ça, c'est un des problèmes que l'on peut avoir. Enfin bon.
Pour tous ceux qui prennent l'émission en route... Nous sommes avec Didier Blons.
Il y a un fantasme parfois de l'Europe, oui, l'Europe riche, ce qui est vrai par rapport à d'autres, l'Europe des aides, et souvent la réalité est beaucoup plus complexe. Déjà pour avoir des papiers, et puis ces aides, on ne les touche pas aussi facilement que cela.
Moi je rappelle souvent qu'un enfant africain, où qu'il soit, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique du Sud, hein. Un enfant africain a accès tous les jours à un appareil de télévision, plusieurs heures par jour. Et qu'est-ce qu'il diffuse ? Que diffusent les chaînes dans ces pays-là ? Ils diffusent Santa Barbara, Dallas, toutes les crétineries télévisuelles américaines.
Qui peuvent faire rêver certains.
Ou des femmes somptueuses, dans tous les sens du terme, des mecs qui sont... bourrés aux as, etc., passent leur vie à se prélasser devant une piscine en se créant des problèmes dans la tête.
Plus les publicités avec les belles voitures.
Et donc, bah, pour un enfant africain, l'Europe ou l'Amérique du Nord, qu'est-ce que c'est ? C'est un pays de cocagne où on ne travaille pas, où on a tout ce qu'il faut et où on n'a qu'à se baisser pour ramasser ce qui nous plaît. Effectivement, le choc, quand ils arrivent, est plutôt violent. Et nous, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Et ce qui fait qu'il y a quelques mois encore, avant le 15 mars, beaucoup de personnes dédaignaient les haricots verts, dédaignaient alors les lentilles, n'en parlons pas, les salsifis, tout ce que vous voudrez. Dès qu'ils ne connaissaient pas, ils ne prenaient pas. Bon, donc une de nos angoisses, c'était les endives, par exemple. Aller gérer 200 kilos d'endives un vendredi soir alors que vos conteneurs ne peuvent pas les contenir. Vous faites un mur d'endives et vous dites au temple le dimanche suivant, il faut nous débarrasser des endives. Hein, allez. Depuis le 15 mars, ils prennent tout. Et c'est là aussi qu'on s'aperçoit qu'il y a un appauvrissement global de la population bénéficiaire. C'est qu'ils ne mégotent plus. Ils ne mégotent plus et nous nous sommes retrouvés plusieurs fois avec les stocks à zéro. Parce qu'au fur et à mesure que ce que nous avait donné la Banque alimentaire était épuisé, ben il fallait bien continuer à distribuer. Et alors ce qui fait que depuis le début de la pandémie, ben il faut commander de plus en plus parce que la banque alimentaire peut pas faire face à tous les besoins. En plus, dans la première phase, le CCAS avait ouvert 4 gymnases et qui approvisionnait 20 000 personnes d'après ce qu'on m'a dit. Bon, je ne sais pas si les chiffres sont totalement exacts. Et donc, la Banque alimentaire a de plus en plus de mal à nous fournir, et en quantité et en qualité. Ce qui fait que, moi, en tant que président de l'entraide, je suis obligé d'acheter de plus en plus souvent. Par exemple, pendant 2 mois, j'ai acheté du lait. Ben, ça a l'air de rien, mais 400 litres de lait, ça me fait 300 € qui sortent. La dernière fois, j'ai commandé 360 boîtes d'œufs, ça m'a coûté pratiquement 600 €, etc., etc., etc. Alors, quand c'est une fois... exceptionnellement, pas de problème. Quand c'est à toutes les distributions, et pendant le premier confinement, on a distribué toutes les semaines, parce qu'on était pratiquement les seuls à continuer à fonctionner normalement, Bah, moi, mon budget annuel, il est de l'ordre de 55 000, 60 000 euros. Quand nous avons payé à la Banque alimentaire sa livraison pour contribution aux frais de fonctionnement de la Banque alimentaire de l'ordre de 1 200 euros, si je dois rajouter 1 000 ou 1 200 euros, ça me fait 2 400. Et avant, j'avais la contribution des bénéficiaires, donc ça faisait 300, 400 euros qui venaient en déduction. Là, maintenant, je ne l'ai plus. Heureusement que j'arrive à trouver encore des financements, mais j'espère pouvoir tenir. J'attends deux subventions là. J'espère pouvoir tenir jusqu'à Pâques 2021, mais si ça se dégrade ou pour une raison X, Y, Z, ça va être dur. D'autant plus que tout le monde est dans mon cas, absolument tout le monde. J'ai appris là récemment que le Secours Populaire ne ferait pas vraiment les distributions qui étaient prévues parce qu'ils n'avaient pas de, ils avaient plus de stock et ils n'avaient pas d'argent pour acheter. Ça va devenir compliqué, quoi. J'espère que l'hiver va pas être trop dur, trop difficile, parce que là, il va falloir prendre des mesures de sauvegarde en urgence. Et ces mesures de sauvegarde, elles vont être difficiles à prendre, parce que aller loger des centaines de personnes, vous pouvez pas mobiliser les gymnases, les salles disponibles pendant 3, 4, 5 mois, c'est difficile, quoi. Alors, je voudrais pas être politique au Havre actuellement, vous voyez. Je voudrais pas être madame la sous-préfète. Je voudrais pas être monsieur le maire. Je voudrais pas être la directrice du CCAS. Parce que là, il y a des enjeux énormes, hein, qui vont se produire. Alors, nous, on va être là. On va être là. On va faire le maximum. On est aidé. On a fait plusieurs appels aux dons. J'en fais un d'ailleurs actuellement, j'ai fait un appel aux dons. Hein. Vous pouvez déposer vos chèques au 47 rue Anatole France, il y a une boîte à lettres qui est prévue pour ça, au nom de l'entraide protestante. Mais je cite souvent la phrase du Christ, vous êtes comme les oiseaux de sur la branche, vous êtes les oiseaux de mon père, et mon père y pourvoira. Ah ouais, mais j'espère qu'on passera cet hiver à peu près élégamment et efficacement.
On rappelle l'adresse d'entraide protestante que vous venez de redonner. On rappelle cette adresse.
47 rue Anatole France.
Ça, c'est pour les besoins, mais c'est aussi des fois pour donner un coup de main.
Alors, oui et non. Si vous voulez donner un coup de main, il faut venir le jeudi ou le vendredi des semaines paires. Le jeudi matin, on a la livraison. Le vendredi, on a la distribution. Et vous pouvez proposer vos services, on ne vous emploiera pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que les équipes maintenant sont rodées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait changé de mode de distribution 4 fois. Là, le jeudi matin, nous sommes 6 et nous assurons la réception des vivres et leur disposition sur des tables en nu de façon à faciliter la distribution, etc. Donc on fait ça en 2 heures maximum. J'ai acheté du matériel pour manipuler les palettes, etc., etc. Donc ça, nous sommes rodés, 6. Et le vendredi, 10-12, on suffit amplement. 10-12 de gens qui sont là depuis longtemps. On a demandé à tous les bénévoles bénéficiaires, ou tous les bénéficiaires bénévoles, de ne plus venir. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de jalousie. Oui, ils ont plus parce qu'ils sont bénévoles, etc., etc. Et donc, ça a obligé à avoir un contact avec des gens qui étaient potentiellement au contact du Covid, on n'a pas voulu prendre le risque. On a décidé ça à contre-cœur. Alors, à chaque fois que je rencontre un ancien bénévole dans le Havre, la première chose qu'il me demande, c'est « Mais quand je peux revenir ?» Et je suis obligé de répéter à chaque fois « Je ne peux pas faire appel à toi pour des règles de sécurité parce que je ne suis pas certain que tu n'aies pas le Covid et j'ai encore des bénévoles qui sont fragiles, etc. etc. » Et ça, je vous jure que c'est pénible, hein, c'est difficile. Donc, 47 rue Anatole France, pas de dons en nature parce qu'on n'a pas le personnel. Et puis, je ne vais pas demander aux dames de l'accueil du temple de stocker les kilos de patates ou les kilos de conserve. Par contre, les chèques, elles peuvent les stocker, il n'y a aucun problème.
Et c'est déductible des impôts. C'était le 82e numéro de Parole d'Assaut, une émission de Didier Blonz, prise de son Gisèle Bihan. Aujourd'hui, nous recevions Entraide protestante avec pour invité Alban Bervas.